Se parle tuba pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé. Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, il y a un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur bétonneur et au grand méchant loup de la finance. Là-bas, il n'y a pas d'EHPAD pour les vieux, ni de banlieue sans espoir pour les jeunes. Là-bas, les anciens sont les tutos des ados. Les compteurs ont remplacé Twitter et les jardiniers font pousser des histoires avec des happy ends pour tous. Dans tes rêves, il y a un écrivain embarqué dans les coulisses du pouvoir. Il mate tout derrière ses petites lunettes. Il prend des notes sur les intrigues du palais, sur le bal des textos et des focus sous les dorures de la République. Là-bas, c'est un autre village dans une campagne électorale sans temps mort où même les nuits sont si courtes. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui d'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens super-héros de la vraie vie. Alors si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier est écrivain, dramaturge, scénariste, fictionneur de la politique, réalité dans les coulisses de la conquête du pouvoir avec un livre dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, un personnage de roman chez Julliard consacré à un certain Emmanuel M. Bonjour, bonsoir, Philippe B.
Bonsoir, Laurence G.
Philippe Besson, écrivain embarqué, ça vous va ou...
Oui, ça va, ça va. C'est assez juste au fond.
Bah oui. La politique, on en reparlera, un monde romanesque pour l'écrivain, assez impitoyable. Est-ce que c'est plus impitoyable que le monde de l'édition? Est-ce qu'il y a autant de focus chez les écrivains que...
Oh, c'est équitablement partagé.
Dit-il.
Je trouve qu'a priori, on trouve autant de médiocrité dans l'un que dans l'autre.
Boum, ça commence. Mon second est poète-acteur vendéen, conteur à l'heure de Twitter, collecteur, sauveur d'histoires du monde paysan, entre autres, créateur du festival Nombril du Monde à Pougny-Hérisson dans les Deux-Sèvres. Bonjour, bonsoir Yannick J.
Bonjour.
Moi après j'arrête.
Laurence Garcia.
Yannick Jolin, conteur à l'heure de Twitter, ça vous va?
Oui, absolument. Absolument, je vis avec mon temps. Mais je porte un héritage et j'essaie de faire un peu de transmission. Voilà.
Vous parlez de stand-up mythologique. J'aime bien ce mélange des mots, des genres, vous qui malaxez les mots aussi.
Ouais, oui, parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu... Quand on est un peu à côté des casiers où on peut vous ranger, il faut toujours essayer de définir. Et le stand-up, oui, j'aime bien cette énergie du stand-up. J'aime bien ça, cette espèce de chose qui est en relation avec des gens, qui est cette mise en relation. Et le conteur a cette faculté d'être vraiment dans une mise en relation très individuelle.
Ouais.
Et en même temps, moi, j'essaie de le faire au service d'une parole qui me semble importante, puisqu'éternelle et puisqu'elle définira l'humain jusqu'à la fin des temps, qui est celle des archétypes, des mythologies et de tout ce qui est nos tréfonds et de toute cette manière qu'ont eu les hommes d'inventer des outils pour apaiser leurs angoisses.
Voilà, ouh. Des beaux mots, il va y en avoir ce soir, c'est votre première rencontre dans la vraie vie entre le conteur, l'écrivain, en même temps, je pense qu'il y a des imaginaires bien connectés entre vous deux. On est tous des personnages de romans, est-ce que quand l'un ou l'autre se balade dans la rue, dans les campagnes, vous dites tiens, oui le romanesque est partout, il faut le trouver, les destins, ou c'est plus compliqué que ça?
En tout cas, moi ça m'intéresse d'inventer des vies à des gens que je ne connais pas. Ça m'intéresse de croiser des gens et de les regarder comme des tableaux sur lesquels on pourrait projeter nos propres fantasmes, nos obsessions, etc. Et ça m'amuse de leur inventer des trajectoires, des destins qui sont souvent pas la réalité forcément. Mais c'est bien que les gens suscitent ça, le désir de comprendre qui ils sont. Donc voilà. Et puis après, je crois aussi que on se trouve tous parfois dans des situations de la vie normale. Et puis ça dérape et ça devient anormal ou ça devient à côté de la réalité. Donc c'est, du coup, ça donne l'impression qu'on bascule dans le roman, oui. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse le moment où l'ordinaire devient extraordinaire, où le prévisible devient imprévisible, je sais pas quoi.
Ou l'impossible devient possible.
Voilà. Quand ça dérape, quand c'est pas programmé, ça m'intéresse. Et là aussi, c'est au cœur de la définition du romanesque, me semble-t-il.
Le romanesque, vous, Yannick Jolin, vous allez le collecter notamment auprès des anciens, entre autres.
Et des jeunes aussi.
Et des jeunes aussi. Donc, vous disiez à un moment donné, moi, je passe mon temps au cul des vieux.
Ça
pas des vaches, c'est pas moi.
C'est une formule.
Oui, c'est une formule, vous en avez.
Non, mais c'est pareil, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute les gens, on s'aperçoit que dans n'importe quelle vie ordinaire, il y a toujours
absolument
un point de bascule, il y a toujours une chose qui pourrait être de la matière à romanesque. Et ça, c'est fascinant. Dans n'importe quelle famille, il y a des histoires invraisemblables. Il y a des cadavres à peu près dans tous les placards de toutes les familles du monde. Ça, c'est formidable.
Mais pour l'un comme pour l'autre, et là, à titre personnel, est-ce que c'est aussi, au-delà de la déformation professionnelle, de l'écrivain ou du conteur, mais est-ce que pour vous, c'est une façon de se protéger du réel aussi que de voir le romanesque derrière l'ordinaire
Pour moi, c'est pas une façon de m'en protéger, c'est une façon de l'augmenter, le réel. C'est-à-dire qu'il y a le réel existe, et moi, je m'en accommode très bien, et ma vie me va bien, les gens qui sont autour de moi me vont bien, et voilà, tout va bien. Et puis, on a la possibilité de vivre autre chose à côté. Moi, je me suis mis à l'écriture des livres pour devenir quelqu'un d'autre que moi, pour vivre d'autres vies que la mienne. Voilà, la seule possibilité que j'ai trouvée pour vivre d'autres vies que la mienne, c'est de les écrire. Si j'avais été acteur, je serais peut-être devenu acteur et j'aurais interprété des rôles, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est d'augmenter le réel, d'en avoir encore un peu plus, monsieur.
Monsieur, j'en reprends voilà, un petit rab.
Monsieur Balzen, je sais pas quoi, donc je voilà. Et c'est plus ça, mais moi j'ai pas de problème avec le réel, ou en tout cas je cherche pas à m'en plaindre, ou à penser, ou je cherche pas à régler des névroses, ou j'assigne pas de vertu thérapeutique à l'écriture, je suis pas un grand malade qui a besoin de se soigner. Enfin, c'est
ah
pas
bon?
Non, je crois pas, ça va plutôt bien. Donc je n'assigne pas à l'écriture, en tout cas, l'objectif de me soigner du réel ou de m'en protéger, pas du tout.
Le Nombril du Monde, c'est le nom de... Je sais pas si vous connaissez son festival,
oui,
hein, Yannick Jolin, voilà, on parlera tout à l'heure de vos racines d'enfance, qui sont assez proches aussi. Vous avez inventé depuis 28 ans maintenant? Ça fait combien de temps que vous avez inventé?
Ça commence à faire.
C'est plus qu'un mandat présidentiel.
28, ça a l'air d'être ça.
Que toutes ces histoires seraient nées là-bas, dans ce village du Nombril du Monde. Mais un nombril qui écoute le nombril des autres, quoi, en fait.
Oui, mais c'est un nombril aussi symbolique qui parle de cette dénombrilisation nécessaire du monde, dans un monde où l'individuation a été forcément très positive, mais en même temps a créé quelques dégâts et participe à ce déracinement général des humains, d'eux-mêmes aussi. Et moi, j'aime bien l'idée que ce nombril-là, en se décalant, essaie aussi de dire notre nécessité à faire des choses ensemble, à une nécessaire nouvelle manière de penser le collectif, quoi. Moi, j'y crois beaucoup à ça.
Ça vous cause, ça, Philippe Besson, vous qui suivez d'autres nombrils
Ça me cause, mais en même temps, avant que je vous parle de ce nombril, c'est aussi là la vraie différence entre un conteur et un écrivain. Et le conteur a une chance que n'a pas l'écrivain, ou l'écrivain a une frustration que n'a pas le conteur. C'est que le conteur, il a un public, il a une oralité, donc quelque chose existe. Et donc cette communion se fait, et le tout, le collectif existe. L'écrivain, lui, il est condamné à la solitude. Alors c'est une solitude merveilleuse, moi j'adore cette solitude, c'est une solitude féconde, c'est une solitude choisie, donc tout va bien. Mais vous écrivez dans le silence, vous ne savez pas du tout comment le livre va être reçu, et d'ailleurs quand il est lu, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas à côté des gens quand ils le lisent, donc vous savez pas ce qu'ils en pensent.
Parfois c'est peut-être mieux d'ailleurs.
Oui, parfois c'est mieux je crois. Mais donc en tout cas il y a une espèce de chose qui s'arrête là, le livre existe pour lui-même. Tandis que quand vous êtes un conteur, vous racontez une histoire à des gens, vous la tenez d'autres gens, vous la transmettez, et il y a un moment qui se produit. C'est la vraie frustration de l'écrivain. C'est qu'effectivement, ce collectif n'existe pas. L'écrivain est par essence dans l'individualité et la solitude. Ça me va très bien.
Oui.
Mais c'est vrai que du coup, par exemple, quand j'écris du cinéma, déjà, je trouve ça sympa parce que je me dis, les mots que j'ai écrits vont être prononcés ou interprétés par un acteur ou une actrice, et puis vont être vus par des gens dans une salle qui seront tous ensemble en train de regarder au même moment. Et du coup, il y a quelque chose d'une histoire plus commune, qui se produit. Dans le livre, non. Parce que même quand on lit, on est seul.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Donc forcément, le conteur corps est dans une dimension collective universelle de transmetteur.
On a une rétribution symbolique aussi très rapide. C'est, moi, je vois très bien comment, j'aime bien les spectacles en plus, où la parole crée de la parole. Et souvent, les débats après les spectacles sur le thème provoquent encore, il y a souvent une arrière-saison du spectacle qui est vachement bien, mais c'est vrai que c'est un plus, quoi, par rapport à l'écrivain.
Vous pouvez expliquer à Philippe Besson ce qu'est un ombilicologue?
C'est un gars qui travaille sur pour savoir ce que le nombril a dans le ventre.
Ah oui, c'est ça.
Donc c'est un gars qui essaie de comprendre les processus de la nombrilisation du monde et essaie d'en tirer des antidotes.
D'accord, je vois.
Oui, nombrilisation du monde, c'est finalement un autre concept de mondialisation.
C'est vrai, c'est pas faux.
On va les écouter, ces nombrils tournés vers les autres, n'est-ce pas, avec un conteur et avec un écrivain. Voilà pour la partition lyrique jusqu'à minuit. Vous postez vos sons sur notre page Facebook, à nous dans tes rêves. La rêve partie anti-blues du dimanche soir, mitonnée par le gang des rêveuses, Marie-Hélène Fauquier à la réalisation, Nadia Chougui à la préparation, Muriel Pérez pour la programmation et ce soir à la technique, notre rêveur Julien Michel. Belle soirée. Man, c'est Jungle sur France Inter.
C'est Dieu.
Il y a combien de gros mots qui commencent par C?
C'est à moi que tu demandes ça? Je connais pas de gros mots, moi.
Oh, Edith, le plus gros mot qui commence par C, qu'est-ce que c'est?
Dans tes rêves.
Tu restes là. T'es puni. Faut que je fasse à manger.
Laurence Garcia.
Et pas seul avec l'écrivain Philippe Besson et l'acteur, conteur Yannick Jolin. Un gros mot qui commence par C, messieurs. On est dans l'univers de l'enfance, là, voilà.
Ou crétin.
Oh, ça va, c'est gentil.
C'était pour pas dire une chose un peu, mais crétin, c'est bien. C'est surtout que c'est une vertu très partagée.
Alors, quelque chose qui peut me passer, vous êtes chien quelque chose, chien galeux, oui, ça pourrait être, ça pourrait être du charentais, ça, le chien, ou le chêne.
Bah, c'est bien, là, vous me tendez une perche, l'un et l'autre, parce que comme à chaque fois, on réexplore l'imaginaire de l'enfance, hein, qui explique qui l'on devient. Donc, tous les deux des enfants de la campagne, oui. La Charente pour Philippe Besson et la Vendée pour Yannick Jolin. Et c'est marrant, hors micro, vous vous connaissez pas, là, avant d'arriver, direct, vous avez parlé patois, en disant,
moi, je parle pas, je le comprends.
Et puis, il en fait des spectacles, etc. Première langue maternelle, hein, ce qui vous concerne.
Pour moi, oui.
Et vous, c'était ?
Moi, c'était ma grand-mère qui le parlait, donc je l'ai entendu parler pendant toute mon enfance, mon adolescence. Puis ma grand-mère est morte il y a très peu de temps, donc je l'ai entendu parler jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc je le comprends, je dois avoir une centaine de mots de vocabulaire. Et puis quand on me le parle, je comprends sans aucun problème. On ne perd pas ça, ça ne s'oublie pas. C'est pas non plus hors du commun à comprendre, hein, mais c'est vrai que c'est une langue particulière, oui.
Un bilinguisme dont vous jouez, hein, Yannick Jolin. Mais vous dites que pendant longtemps, gamin ou peut-être ado, il y avait un gros complexe culturel là-dessus, hein, un gros complexe social aussi, de se dire tiens,
parce que
cette langue-là.
Ça, c'est l'éradication des langues minoritaires en France. C'est un long feuilleton. Mais c'est vrai que moi, arrivant au collège, j'ai commencé à développer des allergies, tout ce qui rappelait la ruralité, tellement je me sentais un plouc aux yeux des petits notables.
Mais c'est
ça. Rien de pire que le petit notable de ville où on arrive.
Quoi. Le truc, il est là, c'est qu'en fait, au fond, ce genre de patois et l'accent qui y est associé, d'une certaine manière, fait de vous un plouc. C'est terrible. C'est-à-dire que, moi je me souviens quand j'étais gamin, j'étais le fils de l'instituteur, donc c'était presque un noble, vous voyez, le mec qui a reçu une éducation, le petit notable du village. Et à côté de moi, c'était tous des paysans, alors qu'on était tous au même niveau. Mais du coup, il y avait celui qui parlait un langage châtié, un français convenable, etc. Puis il y avait les autres qui parlaient ce langage avec un accent et des mots qui n'appartenaient qu'à cette langue-là, à ce patois-là. Et du coup, ça crée une distance sociale. C'est terrible.
Puis il y a une honte qui est véhiculée. Quand j'ai traversé avec mon âne, là, j'ai fait un espèce de
voyage à Padane. Oui.
Et je rencontre une femme, elle était avec son petit-neveu, il y avait la mémé derrière, je l'entends parler patois. Et je vois que le petit gamin, il comprend pas du tout, il sait pas de quoi je parle. Le patois, c'est quoi? Et je reviens, je dis à la femme, mais pourquoi il sait pas ce que c'est? J'ai vu que la mémé, elle avait une belle langue. Elle me dit, ah oui, elle parle patois. Mais avec le petit, elle fait attention.
Ah oui, langue dangereuse.
C'est terrifiant.
Oui, mais c'est ça.
C'est-à-dire l'idée qu'il y a un danger dans le fait de transmettre la langue des ancêtres, celle qui a permis d'écrire le territoire autour avec finesse, avec délicatesse. Il y a un danger. Il en a fallu des pesticides de la pensée pour ça, arriver à faire que cette éradication n'ait plus besoin de causes extérieures.
On reste dans l'enfance. Philippe Besson, vous disiez, fils de l'instituteur, directeur d'école. Hein, donc vous habitiez dans le logement de fonction, j'imagine.
Au-dessus de l'école, oui. Ma chambre donnait sur les tilleuls de la cour de récréation, oui.
Eh bien, on entendait ça au-dessus de votre chambre.
Ouais.
Ça stresse, ça, ou pas, quand on réentend la sonnerie de l'école?
Non. C'est parce que moi, l'enfance, c'est un moment heureux. C'est un moment très protégé. Je n'ai pas besoin de guérir de mon enfance ou de me venger de mon enfance ni de mon adolescence, d'ailleurs. Ça a été un moment extrêmement protégé, cotonneux, agréable. Alors, c'est vrai que c'est curieux quand vous êtes le fils de l'instituteur, parce que tous les jours, entre 9h et 4h30, vous dites monsieur et vous à votre père, au lieu de dire papa es-tu, donc c'est un peu bizarre. Puis qu'effectivement, quand vous rentrez chez vous, il suffit juste de prendre l'escalier pour monter, donc c'est un peu curieux.
Mais il y a la pression de réussir aussi,
d'avoir
des bonnes notes.
Il y a la pression de réussir qui est très forte, mais qui était liée qui était donnée par mon père. C'est-à-dire, mon père considérait qu'on ne prenait l'ascenseur social qu'en faisant des études et qu'il fallait donc que nous les fassions. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand je regarde les photos de classe de cette époque, donc moi, je suis à l'école primaire dans les années 70, je suis dans 67, et quand je regarde les 17 élèves sur la photo de classe, les deux seuls qui ont eu le bac, je vous parle pas de faire des études, qui ont eu le bac, c'est mon frère et moi.
Sur les 17.
Donc voilà d'où nous venons. Ouais. C'est le sud de la Charente. Et moi, je viens d'un village qui s'appelle Lamérac. D'ailleurs, qui ne s'appelle plus Lamérac. Je viens d'un village qui a disparu, parce que vous savez, maintenant, à la faveur des regroupements de communes, Lamérac a fusionné avec la commune d'à côté qui s'appelle Montchaude. Donc maintenant, ça s'appelle Montmérac. Donc ça veut dire que moi, j'ai grandi dans un lieu qui n'existe plus techniquement, administrativement.
Un village fantôme.
C'est terrible.
Ça.
Bon. Ouais, bon, ça faisait 160 habitants. Et donc, du coup, il y avait une classe unique dans laquelle vous aviez 16 ou 17 élèves selon les bonnes années, ou dans laquelle vous aviez CE1, CE2, CM1, CM2, bon, ça. Mais c'était que des gens qui vivaient beaucoup des vignes, parce qu'autour de nous, c'est un pays de vignes, c'est le cognac, etc., c'est le cognac, le pinot, bon. Donc, c'était beaucoup des fils de paysans qui allaient reprendre la terre après. C'était ça. Je vous parle pas de 1830, je vous parle de 1970. Mais moi, je me souviens d'une enfance extrêmement heureuse, extrêmement, ce que je dis d'ailleurs dans Arrête avec tes mensonges. J'ai pas de reproche à faire à mon enfance.
Ce livre Arrête avec tes mensonges, qui était la phrase que votre mère
me disait. Oui. Mais parce qu'encore une fois, c'était très, il nous arrivait rien. Alors c'est aussi un moment de nos vies où, évidemment, une partie de ceux qui nous écoutent ne doivent pas du tout comprendre ce que je vais dire, mais vous n'aviez pas Internet, vous n'avez rien du tout. Donc le monde n'existait pas, le dehors n'existait. Et puis en plus, mon père nous empêchait de regarder la télé. Donc moi, je pense que j'ai vu la télé la première fois, je devais avoir 10 ans. Donc le monde extérieur n'existait pas. Mmh. Donc on vivait dans ça, en autarcie, et c'était vachement bien.
Bah, vous parlez de fils de paysan, Yannick Jolin, en gamin de la ferme. On parle du maître d'école, maître. Mmh. Vous voyez où je veux venir. C'est un mot qui vous glaçait, môme, puisque votre famille se sentait soumise au maître. On parlait de nos maîtres, des maîtres du champ.
Ouais, mon père enlevait sa casquette devant le propriétaire terrien en disant notre maître. Non, oui, bien sûr qu'il y a ça. Il y a cette chose de la soumission que j'ai traîné un peu, sans doute, un moment. Et c'est marrant parce que c'est très paradoxal chez le paysan. Il y a une indépendance du paysan. Qui était sans doute même dans la pauvreté, il y avait souvent une grande dignité parce que c'était un monde où les gens étaient indépendants, ils pensaient aussi par eux-mêmes malgré tout. Moi je pense qu'il y avait un monde paysan qui avait beaucoup plus de qualités qu'on ne lui attribuait par la suite pour envisager sa disparition. Mais oui, moi j'ai des souvenirs assez heureux aussi, même si moi, c'est un peu plus compliqué, une guerouette de 5 drôles, rabâle comme ça, mais ma mère a eu 5 enfants en 5 ans, donc y est-elle
pour
moi.
Vous avez compris ce qu'il a dit ?
Oui, les drôles c'est les enfants, la rabâle c'est à suivre.
Y est-elle pour moi, mais donc il y a eu une promesse.
Premier l'aîné, d'accord.
Donc avec nos promesses d'amour qui n'ont pas été tenues beaucoup, parce qu'en 5 ans, 5 ans, on n'a eu guère de pièces pour se faire papoter après, quoi.
J'aime beaucoup, c'est beau. Mais quoi, il y avait aussi une révolte un petit peu chez l'ado, peut-être plus tard, chez Yannick Jolin, de se dire, voilà, ce monde qui courbe les chines, vous en parlez souvent.
Oui, je pense que j'ai eu vraiment une vraie colère qui m'a suivi après, qui m'a sans doute aussi permis de monter sur scène. Je n'aurais pas eu la légitimité dans un monde en plus de cathos, paysans, vendéens, ou de Sévriens d'ailleurs, c'est pareil, hein, ça baisse la tête avant de la remonter, hein, c'est sûr. Donc j'aurais pas eu la légitimité de monter sur scène, et c'est de parler au nom d'autres, pour d'autres qui n'avaient pas eu la possibilité de le faire. Moi j'ai senti ça, et à la différence de Philippe, sans doute, c'est vrai que c'est... Oui, moi je suis monté sur scène pour apprendre à aller au plus près de moi, et je pense que c'est aussi un cheminement vers moi, ce chemin de la scène, plutôt que d'être un autre.
Et dans les rêves de ce jeune Yannick Jolin, il n'y avait pas que du rock Poitevin, parce que vous-même, vous avez monté un groupe de rock.
Un grand groupe de rock
qui s'appelait comment ?
Jean Dofiao.
Ah oui, effectivement. Nom qui me paraît faux.
C'est le nom de l'annulaire.
D'accord.
C'est le seul doigt qui peut rien faire sans les autres.
Oh, pas mal. Il y avait ces idoles-là. Les Pink Floyd, je crois savoir que ça fait partie, non pas de vos maîtres, puisque maître c'est pas un mot que vous aimez, Yannick Jolin, mais pour le rocker aussi, c'est partie des posters d'adolescence ou pas, les Pink Floyd.
Ah oui, mais tout le rock progressif, pour moi, j'ai commencé à faire du rock avec des sandales et des chaussettes, moi, donc j'étais pas vraiment dans le hard rock.
Et pas forcément pour faire de l'argent, comme les Pink Floyd, le rapport à l'argent compteur.
J'ai très bien gagné ma vie, en faisant mon travail de compteur, ça va. Mais j'ai sans doute aussi hérité de quelque chose. Je dis souvent que j'ai pris la suite de mon père en étant un paysan d'une autre façon, en cultivant peut-être plus les mots. Mais l'amour du travail bien fait chez mes parents était plus important que la possession des terres, par exemple. Mon père n'a jamais voulu posséder en disant « Bot, je vous emmènerai pas dans mon cercueil et pas la peine qui achète la terre
». Philippe Besson, vous en avez souvent parlé, hein, de vos anciennes premières vies. Hein, oui. Vous avez fait des études de commerce, vous avez été DRH juriste. Oui. Finalement, c'est quoi ? C'est faut se débarrasser de tous ces masques-là. Pendant des années, vous portiez des masques. Et à un moment donné, on se dit, même si l'écrivain porte des masques, il est masqué. Oui. Hein,
Je dirais pas que c'était des masques. Cette ancienne vie, je la renie pas, je la répudie pas, mais elle a été choisie par quelqu'un d'autre que moi. C'est-à-dire qu'elle a été choisie par mon père. C'est-à-dire que moi, j'ai été un enfant obéissant, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Encore une fois, mon père disait à mon frère et à moi, vous ferez des études longues, vous ferez des grandes écoles, même pas la fac. Il n'était pas question de faire la fac, parce que c'est un truc pour les va-nu-pieds, la fac, donc c'est pas possible pour lui. Donc il fallait qu'on fasse de longues études et des grandes écoles. Nous les avons faites, et mon frère et moi, pour que nous ayons des métiers honorables, bien payés, des contrats de travail, etc. Donc, il voulait ça pour nous, ce qui est légitime de la part d'un père, qui veut la sécurité. sécurité pour ses fils. Bon, très bien. Donc, du coup, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir choisi. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Mmh. J'ai fait ça.
Jusqu'au jour où.
Puis, à un moment, quand vous passez 10 ans dans cette villa, dans laquelle, encore une fois, j'ai pas été malheureux, mais bon, c'était pas celle que j'avais choisie, je me suis dit, mais il y en a une de vie que je pourrais choisir, quand même, et qui pourrait me plaire davantage, et parce que c'est pas une vie dans laquelle je ferais quelque chose, mais une vie dans laquelle je serais quelque chose, c'est quand j'ai commencé à écrire des livres. Mmh. Là, je me suis dit, c'est ça. Et donc, j'ai pris une décision un peu radicale, qui est effectivement, à ce moment-là, de trancher complètement, de changer totalement de vie, de couper avec ce que j'avais fait pendant une dizaine d'années. Et je vous cache pas que ça a été assez compliqué d'aller l'annoncer à mon père, parce que c'était de lui dire, ton fils devient saltimbanque, ce qui était l'horreur absolue, mais ça s'est finalement bien passé.
On connaît. Faire ou être, c'est la nouvelle question à suivre. Superbe reprise de Diabolomante d'Yves Simon par Soko. Et ce soir, nous explorons les rêves et l'imaginaire de nos deux invités, l'écrivain Philippe Besson et l'acteur-conteur Yannick Cholin.
Hé, hey, Toréador! Elle donne le signal. Il faut se diriger vers le bord de la falaise. Et le premier qui saute est un dégonflé. D'accord?
Dans tes rêves.
Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu Philippe Besson, un extrait de La Fureur.
Jimmy Dean.
Bravo, Jimmy Dean. James
Dean. La Fureur de vie, oui, Nathalie Wood qui donne le départ, etc. Oui,
voilà,
bien sûr.
Voilà, oui. Et c'était un clin d'œil à votre livre « Vivre vite ». Alors, je ne vais pas faire de rapprochement où on va parler un petit peu d'héroïsme, comme ça, de personnages de romans, sans faire un parallèle entre James Dean et Emmanuel M. Emmanuel Macron, vous les aimez bien, vous les personnages pressés, les personnages dans l'urgence de faire ou de vivre
Oui, j'aime. Enfin, je les aime pas particulièrement, mais ça m'intéresse ces villas qui sont des villes tout d'un coup si raccourcies, si rapides, si mouvementées et hors du commun, c'est-à-dire que qui défient un peu l'entendement. Alors c'est vrai que la vie de Jimmy Dean, 24 ans, il meurt en Californie. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement finalement la dernière année où il explose, il fait les trois films voilà qu'on connaît. C'est plutôt les 23 années d'avant où il est cette espèce de garnement inconsolable et génial et myope. Et voilà, bon.
Mais ça renvoie vous-même à votre rapport du temps stressé, flippé de se vivre vite, de se vivre mieux dans cette mondialisation qui n'arrête pas de nous presser en
fait. Moi, je suis pas tellement. Certes, je suis en mouvement, je suis rapide, etc. Mais au fond, je pense que je me demande si c'est pas une manifestation déjà d'une forme de nostalgie, justement, de la jeunesse. C'est-à-dire que, vous savez, il y a cette phrase au début de L'Amant de Marguerite Duras qui m'a tellement marqué, qui est tout de suite dans ma vie. Il a été trop tard.
Ah oui.
Et je crois ça. Je crois qu'à 18 ans, c'était fini, c'était joué, c'était terminé. Après, il y a la vie. Et c'est pas mal, hein, la vie, on se débrouille. Mais quelque chose s'est perdu d'irrémédiable. L'insouciance, l'insolence, l'âge des possibles, l'étendue des possibles, etc.
Non, c'est terminé,
quelque chose s'est refermé.
C'est terminé, oui, l'âge des possibles, passé
longtemps.
Ah oui,
longtemps. Bien sûr, oui. Oui, pour moi, oui, depuis vraiment longtemps. Donc, je suis assez fasciné par ces gens qui élargissent les possibles, qui font ce qu'on n'attend pas d'eux, qui débordent le cadre. Ça m'intéresse.
Oui, mais voilà. Yannick Jolin s'intéresse justement à ces gens qui débordent le cadre, qui sont dans la possible, mais avec une autre vision, un autre rapport au temps. Vous en parliez très rapidement tout à l'heure de cette épopée, ce voyage qui a donné un livre, Voyage à Padan. D'où vient l'idée de se balader à Padan? Ça n'avance pas très, très vite. C'est l'envie de méditer autrement.
Ouais, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les poètes de bord de chemin. Vous savez, ces gens qui sont comme disait Brassens, avaient l'habitude de d'inventer leurs outils de communication quand ils n'allaient pas à l'école, quoi. Et je voulais savoir s'il en restait encore un peu. Et en prenant le temps de l'âne, c'est un doudou. Ça permet de rencontrer plein de gens sur une route. C'est formidable pour ça. Et d'aller rencontrer les gens et d'aller voir si dans cette campagne qui est en pleine dérédiction comme ça, est-ce qu'il reste encore de ces figures qui m'ont tant constitué, moi, tous ces types, les Camille Truteau, les Camille Truteau, des espèces d'idiots de village, vous savez, idiots, idiotesses, hein, c'est le singulier, hein, il y avait de la place pour eux, il y avait une place, et c'était souvent des inventeurs, ils avaient des éclairs de génie, quoi. Hein,
mais il en reste alors encore sur les routes d'aujourd'hui?
Il en reste encore, ça m'a ravi ça, et d'aller prendre le temps de avec l'âne de les rencontrer, ça m'a ravi ça. Oui.
Philippe Besson.
Je voudrais rebondir sur ce que vient de Yannick, sur une phrase qui est sur une expression qui est prendre le temps. On le dit souvent, mais c'est-à-dire que notre époque a oublié et la lenteur et le silence. Mmh. On est dans une époque d'urgence, de rapidité, une information chasse l'autre, ça parle énormément, on est saturé d'informations, on est saturé de tout, etc. Et c'est vrai que quand on retourne dans ces pays-là, nos pays d'enfance ou d'autres, tout d'un coup on se dit, mais donc ça existe en fait d'aller lentement, et ça existe de ne pas parler tout le temps.
Et qui sont les plus décalés des deux?
Je ne sais pas. Justement, c'est ça qui est intéressant. Et ça existe surtout de ne pas être au courant de tout le temps, tout de suite, en permanence. Moi, quand je vais voir ma mère à Barbezieux, j'ai l'impression qu'elle connaît les informations d'il y a 6 mois. Et je me dis, mais enfin, t'es folle, t'as vu ce qui s'est passé il y a 2 minutes? Moi, j'avais une alerte sur mon téléphone portable qui disait ça,
etc. C'est vous, là, le grand fou.
Et elle me regarde comme si j'étais un grand malade. Et en fait, je me dis, en fait, c'est elle qui a raison, quand même. Oui. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, ce qui est important, c'est pas ce que j'ai reçu en alerte sur mon téléphone 2 minutes avant.
Surtout qu'on sera toujours largué.
Voilà,
hein.
C'est ça. Bah oui. On aura toujours un temps de retard. Oui. Et puis, de toute façon, il y a une autre alerte qui va arriver 20 minutes plus tard. Bon. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, on a oublié la lenteur et elle nous fait peur, en fait. Il y a un truc de, mais comment je vais me débrouiller si ça va lentement?
Où là, on réaccepte la saison.
Oui, enfin, vous avez vu comment on fait l'été. C'est qu'on a la première semaine, on est complètement stressé.
Oui, c'est ça. On a peur du temps qu'il y en a.
C'est pas normal.
On le voit, nous, dans le jardin de Pugno, Nombril. On a fait un jardin sonore. Un endroit où les gens s'immergent là-dedans, vont dans un bain sonore où ils vont prendre le temps d'aller écouter des choses, d'aller entendre. Et c'est la difficulté qu'ont les gens de s'arrêter, de tout d'un coup de ralentir. On leur propose des voyages artistiques à l'intérieur, on leur propose vraiment d'aller se poser, d'aller benaiser justement dans un endroit pour se dire, attendez, là on met vraiment les freins, on est dans un endroit, un hors du temps, un il était une fois, tellement intemporel comme ça, où on va pouvoir
aller écouter des histoires, mais s'écouter soi aussi, c'est vachement dur. Puis en plus, Louis, on a, dans un monde saturé d'images, tout d'un coup de leur dire, attendez, c'est l'oreille qui va prendre le pas sur le reste.
C'est ça.
Et vos pieds sur la, et vos pieds sur le sol. Mais c'est un voyage formidable. Donc, c'est un sas de décontamination, comme ça.
Décontamination.
Ouais, de l'époque.
Il en faut. Pas anodin d'ailleurs cette année, Yannick Jolin. J'ai cru voir que la thématique, entre autres, il y a plein d'activités qu'on mettra sur notre site du festival, la peur du bourrier.
Ouais.
En patois, c'est le déchet.
Ouais.
La peur de déchoir, déchus, de faire déchet. Ça semble un peu flippant comme ça, mais...
Bah parce que vous savez, on fait un espèce de son et lumière à notre façon. Hein.
Son et lumière version.
Mais, façon. Mais c'est plutôt dans la grande tradition quasiment des pardons à l'ancienne. Hein. C'est un saint non répertorié qui s'appelle Saint Pou. La Pou, ta Pou, ta, y est pas Pou, moi. La peur. Hein, donc. Et ce saint qui protège de la peur, cette année, on est sur la spécialité de la peur de devenir des déchets. Donc, on va avoir des tables rondes aussi sur...
D'être rejeté, en fait, justement, de ne pas être dans la marche du monde qui va parfois vite.
Devenir vieux, devenir aux marges du monde, enfin, de déchoir.
De déchoir.
Ouais.
Philippe Besson, dans ce livre, un personnage de roman, hein, donc vous suivez la marche...
Triomphale
de la conquête d'Emmanuel M. Il y a un moment donné, il y a des passages où vous citez votre père qui est décédé il y a 4 ans, hein, c'est ça. Et vous écrivez, vous demandez vous-même, qu'aurait-il pensé de ma proximité avec cette aventure? Il m'aurait sans doute rappelé que ma famille, c'est la gauche, et qu'à trop approcher le soleil, on court le risque de se brûler les ailes.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez dire entre les lignes?
D'abord parce que mon père était un homme authentiquement de gauche. Voilà, je pense que dans cette campagne, s'il avait été vivant, il aurait sans doute voté pour ou Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon. Il aurait sans doute hésité entre les deux. En tout cas, certainement pas pour Emmanuel Macron. Donc il m'aurait dit, voilà, tu viens de là, de cette famille-là. Donc en t'approchant de Macron, tu l'as trahi d'une certaine manière. Je pense qu'il m'aurait traité de social traître sans aucun problème. Et puis par ailleurs, mon père a toujours eu peur de la lumière. C'était un homme très discret, très très en retrait, avec une très grande autorité. Mais et précisément quand je lui ai annoncé que je voulais écrire des livres, ce qui l'a inquiété le plus, c'était que du coup j'allais être un homme public. Vous voyez, publier, c'est rendre public. Et donc il a toujours eu peur de ça, de cette idée qu'on soit dans la lumière. Donc il disait, vaut mieux être en retrait, vaut mieux être un peu à côté. Donc être au plus près de quelqu'un qui par ailleurs, en plus, est devenu président de la République, ça l'aurait fortement inquiété. Et en plus, je pense qu'il était du genre à penser que le pouvoir vous dénature, vous corrompt forcément, que vous pouvez pas rester pur au contact du pouvoir. Et je pense que d'ailleurs, il n'aurait pas forcément eu tort en le disant. Donc pour toutes ces raisons-là, oui, je pense qu'il m'aurait déconseillé cette aventure. En tout cas, il aurait regardé ça d'un
mauvais œil,
mais en tout cas en disant, c'est pas comme ça que je l'ai éduqué, je pense. Je pense qu'il y a
on y revient, hein, d'ailleurs.
Oui, mais ça n'empêche pas que j'ai une admiration folle pour mon père et que je l'ai profondément aimé et qu'on a parfois été en désaccord, d'ailleurs, sur certains sujets. Mais je pense que oui, il aurait regardé ça d'un œil assez curieux. Ça aurait pas été son monde. Voilà.
C'est ça.
C'est pas son monde.
À l'inverse, vous, Yannick Jolin, vous mettez à la lumière ce monde qu'on ne voit pas. Vous parliez des bords de route, des campagnes, ce monde de...
Oui, c'est vrai que
j'ai pas accès à.
Oui, j'essaie de prendre la parole pour à la place de ceux qui ne l'auront jamais. Alors, je sais pas si ma parole est tellement entendable de cette façon-là, parce qu'en plus, je pense que j'ai toujours pensé, oui, que partant du patois, de la ruralité, avec tout ce qu'on a en France depuis l'abbé Grégoire qui découpe le monde en deux, avec d'un côté le monde des patois, de la ruralité, de la réaction, et de l'autre côté le français universel gagnant le monde, amenant les valeurs définitives. Donc, je pense que partant de là, je suis condamné à avoir une parole marginale.
Condamné.
Bon. Oui. Oui, je pense. Je ne pouvais pas dépasser un certain niveau de notoriété vu la matière que je trimballe.
Matière à réflexion, tout ça, des paroles marginales, les lumières venant d'en haut ou pas.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do.
one is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday.
C'est Harry Nilsson sur France Inter et ce soir c'est Rêve Parti avec l'acteur-conteur Yannick Jelin et l'écrivain Philippe Besson.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune peut-être. Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai ?
Laurence Garcia.
On parlait du temps qui passe trop vite, qui nous bouffe, qui nous dévore. Il est bientôt minuit, messieurs, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Je vais vous proposer une petite pause comme ça dans votre noir intérieur. Et je vais vous demander pour de vrai, paf, 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 de fermer les yeux. Allez hop, on éteint ces lumières et vous me répondez les yeux fermés. Je commence par vous, Philippe Besson. Dans vos rêves les plus fous, là, dans ce noir-là, vous avez l'occasion de croiser votre ancien vous, ce gamin de la campagne, ce fils d'instit. Qu'est-ce que vous lui dites avec du recul d'adulte? Quel conseil vous lui donnez à ce moment?
Je dirais de prendre plus de risques, d'être moins peureux, d'être moins normé, d'être moins obéissant, d'être... c'était un garçon, finalement... vraiment pas déniaisé, hein, c'était un... Bon, donc il aurait fallu que je me déniaise plus vite, je pense.
D'être moins bon élève.
Ouais, j'étais vraiment bon élève. J'avais les meilleures notes. Il y a 17 ans, je portais des pulls jacquard et des lunettes. Et franchement, je...
Super
je
sexy.
Pense que je lui... Voilà, c'était pas sexe. Donc je dirais, essaie d'être sexe un peu plus vite.
C'est vrai. Sois plus sexy. Les yeux fermés, Yannick Jelin, pareil, vous pouvez croiser ce fils de paysan qui en a marre de ces histoires de maître, de destinée sociale. Qu'est-ce que vous lui dites? Sois plus sexy ou autre chose?
Non, d'oser plus, d'oser sa liberté. Moi, je pense que quand on vit dans un monde au contour trop étroit, on passe tellement de temps à casser les cadres que des fois, moi, ça m'a empêché en tout cas de prendre vraiment toute la liberté. Je pense que j'avais de quoi voler plus loin, d'oser plus de choses et je lui dirais ça. Vas-y, fonce, effectivement. Voyage, mange le monde.
Mange le monde. Hein. Finalement, l'un comme l'autre, toujours les yeux fermés. Vous dites à votre ancien vous, à votre ancien gamin, enfant intérieur qui est toujours là. Vas-y plus vite, quoi. Non? On est empêché d'eux, même si on a d'ailleurs deux histoires différentes.
Je suis pas sûr qu'on soit empêché. C'est que on n'avait pas forcément conscience que. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que c'est aussi une des forces de la jeunesse, l'insouciance et l'inconscience de ce qui va venir, de ce qui va advenir. Mais et c'est grâce à cette inconscience qu'on fait des choses aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'idée de comment grand était le monde et de comment étaient les possibles. Donc oui, on était un peu rabougri d'une certaine manière. Quelque chose d'un peu à l'étroit, on va dire, alors que le monde n'est pas étroit.
Et jamais trop tard non plus.
Non,
hein non, bien sûr que ça.
On a rattrapé le retard, d'ailleurs, je pense, oui.
Éclatons le monde. C'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux. Ça va ?
Ça va bien, bien sûr, absolument, très bien.
En tout cas, c'était chouette que chacun se raconte à travers le nombril de l'autre, parce qu'on parlait de nombril du monde. Merci beaucoup pour ce beau voyage intérieur. Sur notre site, à nous, Yannick Jelin, justement, toutes les activités du festival Nombril du Monde à Pougny-Risson. Les dates de tournée aussi de vos spectacles Causer d'amour. Et l'autre spectacle, Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour.
Ouais, les deux, c'est deux volets d'un même spectacle.
C'est
en fait.
Ça. Allez, on continue à parler d'amour alors. Et bien sûr, Philippe Besson, un personnage de roman en poche et chez Julliard, à lire comme un roman. Un roman vrai. À bientôt, messieurs. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. C'est comme ça qu'on dit. Dimanche prochain, une nouvelle rêve partie avec le physicien-philosophe Étienne Klein et notre camarade sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, ça promet aussi. Osez rêver, bien sûr, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.